Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour Carlos, là
Bonjour,
nous allons
madame.
Faire plus ample connaissance avec vous et avec vos travaux. Alors vous êtes né à Turin, où vous avez fait vos études, une des plus belles villes d'Italie avec les chefs-d'œuvre de Guarini, les cafés, les musées archéologiques, les sublimes momies du musée égyptien. Vous avez enseigné à Turin, puis la littérature italienne à Genève, puis à Padoue, là aussi, une ville merveilleuse. Et puis à nouveau à l'Université de Turin. Et vous occupez depuis le 7 janvier 2000 la chaire de littérature moderne de l'Europe néo-latine au Collège de France. Alors vous êtes couvert de prix et de distinctions internationales. Et alors ce qui m'intéresse de façon un peu personnelle, c'est que vous faites partie de l'Accademia dell'Incei. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est cette belle académie très prestigieuse dont Galilée a fait partie, si je me souviens bien, des personnalités qui ont fondé et fait partie de l'Accademia dell'Incei, et aussi André Chastel.
Tout à fait, tout à fait. Marc Fumaroli également.
Marc Fumaroli également.
C'est une académie qui était née au début du XVIIe siècle, avec le projet de mieux relier les sciences et les lettres et les arts. C'est une Rome qui vit sous l'impulsion et je dirais même la ferveur de redevenir, après la crise religieuse du XVIe siècle, la capitale intellectuelle de l'Europe. Ce qui explique, d'autre part, la présence de Poussin à Rome, par exemple,
oui.
Le très beau livre d'Yves Bonnefoy à Rome 1630 en donne un témoignage critique excellent, et le fait que nous voyons là, dans un laps très court d'années, des grands esprits y travailler, Le Bernin, Borromini, Caravage, Poussin, et même Christine de Suède vient avec sa cour. Enfin, Rome redevient une capitale européenne. Donc,
et Galilée.
Donc, l'idée du prince Cesi, qui fonde cette académie et qui demande tout de suite à Galilée d'en faire partie, est celle de réunir les meilleurs esprits européens. Il y aura beaucoup de Français, d'Hollandais à ce moment-là. Et je dois dire aussi que son esprit de liberté a fait qu'elle est la plus ancienne d'Italie, mais avec une petite note que je ferai dans un instant, et en même temps est celle qui a duré moins longtemps, parce que de temps en temps, les papes la supprimaient, quand elle avait un peu trop de liberté.
Voilà, bon, donc l'Accademia dell'Incei, ça veut dire l'Académie du Lynx,
oui,
et que cette Académie tend à regrouper tous les gens qui ont un œil de lynx, en quelque sorte, qui voient loin.
Oui, en effet, il s'agit de réfléchir aux problèmes qui vont venir, pas
c'est
aux
ça.
Problèmes que nous avons, Et l'Académie a pris plusieurs initiatives dans ce domaine, notamment des journées dans les écoles secondaires et primaires pour la diffusion des sciences, parce que l'un des grands paradoxes de notre temps dans toute l'Europe, sauf la Finlande et un petit peu l'Angleterre, c'est que l'enseignement des sciences pures, pour ainsi dire, n'augmente pas comme il serait nécessaire. Les sciences appliquées, bien sûr, mais quand il s'agit de faire une réflexion, qu'il s'agisse de logique, de philosophie, de mathématiques, où il faut simplement appliquer la pensée, bien, aujourd'hui, cela devient difficile. Donc, il y a un grand effort de ce côté-là, et l'esprit de Lynx doit continuer, bien évidemment.
Absolument. Combien êtes-vous à l'Accademia de Lince?
Alors, en calculant qu'il y a, disons, toutes les disciplines, qu'il y a les membres correspondants nationaux et étrangers, membres étrangers qui sont en effet le rayonnement et l'honneur de l'Académie, eh bien, on est à peu près 200.
C'est beaucoup tout de même.
Oui, mais...
Et vous arrivez à travailler ensemble?
Pas toujours.
D'accord.
Mais fort heureusement, maintenant, les moyens techniques, le e-mail, le courriel permet de rester en contact. Mais permettez-moi juste d'ajouter cette petite note pour des raisons historiques. C'est-à-dire que la plus ancienne académie d'Europe, cette académie Olympica, à Vicence, qui est fondée donc au XVIe siècle, 30 ans avant les Lincei, et qui a le grand privilège d'être toujours dans le même lieu et avec le même décor de son moment initial, l'architecture de Pallade.
Mais c'est où alors?
À Vicence.
Oui, mais à Vicence, dans quel endroit? Pas loin du théâtre?
C'est le théâtre même.
C'est le théâtre même. Quelle chance extraordinaire.
C'est le théâtre même.
Le plus beau théâtre du monde.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a encore les structures en bois
absolument.
De la première représentation de Scamozzi.
Oui, oui.
Le corps de Scamozzi. C'est là que Lose a tourné son Don Juan, magnifique film. Cette tournée, tout est resté intact.
Ils ont restauré il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années, je pense.
Oui, ils ont dû un peu restaurer le bois de cette première représentation. C'est incroyable, Aristote serait content. L'unité de temps, lieu et action.
Et c'est votre lieu de réunion?
Oui.
Oh,
c'est un lieu de réunion. On le fait surtout au printemps, parce que comme on ne peut pas chauffer pour des raisons de sécurité et de préservation du bois de ce décor de Scamozzi, si bien évidemment, on est obligé pendant l'hiver de se retirer dans les locaux de l'académie. Mais le théâtre reste quand même le théâtre des académiciens, vous voyez.
Carlos, là, alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, dans votre parcours, les hommes qui vous ont conduit les rencontres, qui ont fait que, à un moment donné dans votre vie, vous avez désiré vous consacrer aux littératures de l'Europe néo-latine? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui vous a conduit jusque-là?
J'essaierai d'être bref, parce que en réalité, plus le temps passe et plus je pense que ma vie devrait être simplement un long remerciement. Donc, en commençant à remercier quelqu'un, je risque d'en oublier d'autres. Mais je dirais simplement, avec quelques emblèmes courts, d'abord mon grand-père, qui, dans son lit et aux dernières heures de sa vie, avait convoqué tous ses enfants, ses petits-enfants. Moi, j'étais presque le dernier. C'était une grande famille. Et il était épuisé après avoir reçu tous les membres de la famille, et il me dit simplement « lis ». Donc, cette...
Magnifique!
Oui. Et puis, il me serre la main. Donc, ça a été un legs extraordinaire.
Le plus beau qu'on puisse, offrir à un enfant.
Tout à fait.
La lecture.
Voilà. Puis, j'ai eu des maîtres d'école inoubliables qui nous ont donné le goût de la lecture. Et je crois que, comme j'étais incertain entre les études juridiques, la philosophie et les lettres, ce qui a été déterminant, c'est un professeur de lycée qui nous donnait, l'obligation et le privilège de lire pendant l'été au moins 10 grands romans. C'est comme ça que, pendant mes étés de lycée, J'ai pu lire les grands romans russes, les grands romans du 19e siècle français, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais finalement, ces mondes-là existent mieux que notre monde. Pourquoi ne pas y entrer? Après, j'ai eu des maîtres à l'université de Turin, je dirais maîtres de sagesse, d'éthique aussi, dans le sens que dans la recherche, il faut avoir, je dirais, un esprit sévère et en même temps ouvert. Je me rappelle que mon maître, je demande de littérature italienne, et là c'était une grande leçon pour moi, quand les jeunes doctorants venaient, et qu'ils citaient des manuels ou des essais inutiles, et ils demandaient de les voir, et puis les laissaient tomber dans la poubelle, avec un geste évidemment radical, hein, et en disant « on ne fait pas l'histoire du négatif ». Et dans ce sens-là, il nous a toujours obligés de rechercher dans nos pistes de travail quelque chose qui puisse être ajouté au monde présent. La mémoire du passé n'est pas quelque chose qui est derrière nous, mais c'est l'obligation éthique de porter dans notre temps quelque chose qui doit pouvoir être utile à ce temps. Et donc, il y a une instance, en effet, je dirais, de sagesse absolument nécessaire dans la recherche que nous devons faire. Puis, j'ai eu une espèce de deuxième formation complète, pour ainsi dire, quand j'étais nommé tout jeune à l'Université de Genève. Parce que c'était la période merveilleuse, inoubliable, où je trouvais, presque au coin de la rue, Jean Starobinski,
ah ben
Michel
oui.
Butor, Jean Rousset, Georges Steiner. Je me rappelle un séminaire.
Jean Starobinski qui écrivait les programmes pour l'opéra de
tout
Genève.
Tout à fait, oui, oui. C'était vraiment une joie. On assistait à cette espèce de foisonnement de perspectives et c'était pour moi un moment assez exceptionnel de ma formation. Même si j'enseignais, je me rendais parfaitement compte que là, j'étais à titre d'élève de ces grands esprits et on a conservé encore des liens fondamentaux avec les deux grands maîtres qui sont toujours là, Jean Starobinski et Bronislav Bacsko. Grand historien des Lumières, grand esprit, un grand résistant qui avait été chassé de Pologne et qui a toujours témoigné pour la liberté. Et puis il y avait Roger Dragonetti pour les études médiévales. Moi, j'ai eu des immenses privilèges. Et
oui, oui.
Je me rends compte que je restitue très peu de ce que j'ai reçu. Mais enfin, disons...
C'est une vraie fête pour l'esprit.
Oui, et puis c'était aussi des grands hommes. On ne retrouvait pas seulement les livres, mais l'accueil, l'écoute, la gentillesse.
La grande générosité.
Oui.
La très grande générosité. Parmi les choses très généreuses dont vous avez été l'organisateur, avec Jacques Ralit, il y avait ces magnifiques conférences à Aubervilliers. Ça a été un moment aussi très fort dans la vie du Collège de France.
Oui, c'était plutôt un colloque à Stresa, sur le lac majeur,
oui.
Organisé par le World Political.
En face des îles Borromée.
Voilà, et enfin, c'était en face des îles Borromée. Et alors, c'était organisé par ce forum, où il y avait des grandes personnalités qui avaient terminaient leur carrière politique, mais qui conservaient évidemment un jugement sur le monde présent extrêmement lucide. Il y avait par exemple Mikhail Gorbatchev, il y avait Boutros-Ghali, l'ancien président de l'ONU.
Qui est mort récemment.
Oui, il y avait Benazir Bhutto, une dame exceptionnelle. Il y avait quelqu'un pour lequel j'ai eu vraiment une immense admiration et qui savait dominer les autres par une parole simple et en même temps directe, Dietrich Genscher, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il y avait aussi des Français, Hubert Védrine, Jospin, Rocard. Donc on avait la possibilité de discuter. Et à un moment, le thème était les nouvelles pauvretés. Alors, la plupart des conférenciers avaient parlé des pauvretés du sud de la planète. Et fort heureusement, les organisateurs avaient demandé qu'il y ait au moins un témoignage des pauvretés du nord de la planète. Et c'est comme ça que Jacques Ralite, sénateur et maire d'Aubervilliers, avait présenté le contexte de la plaine Saint-Denis. Pauvreté et richesse, pluralité de traditions, pluralité de citoyenneté, en disant que il fallait quand même ne pas oublier cette pauvreté. Et hélas, le temps présent nous confirme que...
Qu'on a oublié cette pauvreté-là.
Oui. Et donc, avec un geste utopique, il avait dit, bon, voyez si on peut associer la ville et le Collège de France. Moi, j'ai présenté ce projet d'abord à mes confrères, et le premier qui a répondu oui a été Jean-Pierre Vernant.
Qui était, lui aussi, homme généreux et merveilleux.
Oui, qui était, entre tous, qui grand résistant. Était très malade, oui. Et qui a dit, mais moi, je suis... déconseillé constamment par les médecins, mais j'y viendrai.
Ah, oh, c'est merveilleux.
Et
ça.
Tout de suite après avoir vu que cette proposition trouvait l'accueil de ces grands esprits, je le proposais donc à notre administrateur, Jacques Lovinsky, qui a tout de suite accepté en disant, bon, vous prenez le risque, mais moi je serai avec vous.
France Culture s'était d'ailleurs associée par plusieurs biais, par plusieurs émissions. Il y avait les émissions d'Irène Omelianenko, mais aussi l'Éloge du Savoir s'est associé à cette initiative qui consistait donc à aller écouter un professeur du Collège de France au lycée d'Aubervilliers. Oui. C'était quand même un sacré pari, Carlos, cela.
Tout à fait. Cette collaboration a été précieuse parce que, on l'a vu, les étudiants du lycée Le Corbusier se sentaient valorisés.
Et leur professeur aussi était très engagé,
oui,
je crois.
Oui, les professeurs qui sont, sur la frontière, là, avaient un encouragement supplémentaire. Et il y a eu une suite, c'est-à-dire que, comme tout a été enregistré vidéo par la mairie, par les services de la mairie, nous avons trouvé une chaîne de distribution de films, Cap Cinéma, qui travaille surtout dans la province française. Eh bien, maintenant, ces séries continuent, renaissent, pour ainsi dire, dans des villes où nous avons eu un accueil extraordinaire. Depuis 2 ans à Moulins, l'ancienne capitale du Bourbonnais est encore aujourd'hui ville très vive. Et maintenant, on démarre à Blois. Donc, il y a une continuité dans cette tradition. Et j'ose espérer que la naissance du campus Condorcet puisse continuer cette tradition. Finalement, quand France Culture était venue, la première question qu'on a posée à une dame qui était là, voilée avec ses enfants, et a été d'une certaine manière une provocation de vérité, puisqu'on a demandé, mais est-ce que vous avez compris quelque chose de cette conférence? Et cette dame a dit, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris la chose essentielle, c'est-à-dire que ce monsieur de Paris nous ont reconnu notre dignité.
C'est beau.
Oui, très beau, et je crois que c'est l'essentiel même pour, en pensant à ce qu'on devrait faire aujourd'hui, ce n'est pas des actions ponctuelles, techniques, c'est tout simplement d'abord la reconnaissance d'une dignité réciproque que chaque citoyen, et je dirais même chaque personne humaine, a le droit de voir reconnu. Et du reste, l'autre jour dans mon séminaire, je me disais, d'une manière un peu paradoxale, l'UNESCO a reconnu tellement de monuments comme patrimoine de l'humanité, mais ce qui n'est pas reconnu comme patrimoine de l'humanité est l'homme même. Donc il faudrait faire un petit effort
en effet.
Pour reconnaître l'homme comme patrimoine de l'humanité.
Très belle idée, très belle idée. Est-ce que vous pourrez nous dire juste deux mots sur ce campus Condorcet, Carlo Ossola?
Oui, oui, c'est maintenant dans la continuité du projet du gouvernement pour installer de nouvelles grandes universités, disons dans des zones en même temps plus dégagées par rapport à Paris et capables de faire redémarrer l'économie, les transports, etc. En effet, à juste titre, ce campus qui va réunir plusieurs universités et centres d'études a été localisé, disons, entre les périphériques et la plaine Saint-Denis. Et on a aussi fait avancer le métro. Enfin, il y a toute une restructuration importante et qui donnera ses fruits. Je suis certain de cela. Donc, on peut commencer par une petite graine et puis les grandes structures suivront.
Vous avez depuis 2000 la responsabilité d'une chaire qui a été donc créée pour vous, qui est la chaire des littératures modernes de l'Europe néo-latine. Est-ce que vous pouvez, Carlo Ossola, nous expliquer cet intitulé?
L'idée de fond était et reste, j'ai essayé d'y être fidèle, celle qui suggère de reconnaître que l'héritage latin n'est pas seulement l'héritage linguistique que les langues romanes reconnaissent à leur source, c'est-à-dire au latin, langue romane donc le français, l'espagnol, le portugais, le roumain, l'italien, etc., mais que la présence de cette culture latine a eu une diffusion européenne bien plus importante au-delà des langues romanes. Prenez un grand esprit comme Erasme, auquel nous devons l'Europe moderne. Eh bien, Erasme ne parlait aucun mot des traditions romanes. C'était un Hollandais, mais parlait un latin parfait. Et la même chose, on pourrait dire, des grands esprits allemands. On a encore écrit les thèses de philosophie en Allemagne en latin jusqu'au XIXe siècle. Donc, quand je dis Europe néo-latine,
C'est longue, une longue histoire de l'Europe, en fait.
Voilà, une longue histoire de l'Europe qui était réunie, non pas pour des raisons d'identité des nations, parce que l'identité est toujours conflictuelle, mais au-delà de cela, par une espèce d'unité culturelle, utopique, qui a été, je dirais, en effet, l'élément porteur des traditions européennes. Et je suis très content que, par hasard, ce qui concerne le plus la vie des jeunes s'appelle encore aujourd'hui les projets Erasmus. Donc nous avons aussi un peu de futur dans cette idée d'Erasmus. Donc le latin ne va pas disparaître, simplement il faut l'assumer dans la plénitude de sa tradition. Les grands classiques, la tradition juridique, les grands textes aussi de la pensée philosophique.
Si vous voulez bien, on va peut-être parcourir un peu vos cours au fil des ans, Carlo Ossola. Alors par exemple, vous avez travaillé pendant l'année, je crois, 2002-2003, sur la poésie de Michel-Ange. Quelle belle idée!
Oui, Michel-Ange est, évidemment, on pourrait dire, avec Baudelaire, un grand phare de la tradition européenne. Wagner disait que Rome doit appartenir à tout le monde, le disait dans le Rienzi. Et il y a des grands esprits qui n'appartiennent à aucun pays, Michel-Ange, Baudelaire même, bien sûr, etc. Et Michel-Ange a été un auteur non seulement sculpteur, peintre, pensez à la Sixtine, architecte, mais il a été aussi écrivain. Et ces sonnets, surtout les sonnets...
Oui, justement, les sonnets, on les trouve en Italie assez facilement. Est-ce qu'on les trouve traduits à Paris?
Oui, il y a eu deux traductions françaises partielles, très, très belles. Je crois qu'il faudrait les réimprimer. Mais moi, j'ai pu faire mon cours en mettant en regard le texte français et le texte italien. Et la partie la plus belle de ce... De cette correspondance à deux destinataires. D'abord, un canzoniere, comme on le dit en italien, d'amour et d'amitié pour Tommaso Cavalieri, et un canzoniere spirituel de dialogue avec Vittoria Colonna, donc la grande dame qui a été poète, peut-être la première femme poète pétrarchiste en Italie. Et cette partie, je dirais, littéraire de Michel-Ange est très importante parce que Michel-Ange, il meurt très âgé, il se demande toujours qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette nuit. Et il y a ces sonnets à la nuit qui sont parmi les plus beaux et radicaux de toute la tradition
Est-ce
européenne.
Est-ce que vous pourriez nous en lire un?
Oui, oui,
Est-ce
oui,
que vous
je
en
vais
avez
le chercher.
Un sous la main
oui.
Ah, j'aimerais beaucoup, merci beaucoup. Donc, quatre traductions en français, attendez, vous permettez
oui, oui.
De qui sont-elles
Pierre
Ah bah oui, Pierre Léris, bon, grand traducteur, Franck Ducrot, Eugène Delacroix, et puis Bernard Faguet.
Oui. Mais moi, je citerai Léris, si vous voulez.
Ah bah oui, évidemment. Oui. Ces grands traducteurs aussi de la poésie anglaise, par
oui,
ailleurs.
Tout à fait, tout à fait.
Mais oui. Peut-être, que, si ça ne vous dérange pas, nous allons profiter de...
Je vais en lire, oui, oui. Alors, je lirai donc deux sonnets consacrés à la nuit, l'un en italien et l'autre en français, et dans la traduction de Bernard Faguet. Alors, les traductions de Michel-Ange sont nombreuses, et j'ai dit deux traducteurs, mais en réalité, j'en ai trouvé quatre dans ma bibliothèque. O notte, o dolce tempo benché nero. Con pace ogni opera sempre al fin assalta. Ben vede, ben intende chi ti esalta e chi ti onor ha l'intelletto intero. Tu mozzi e tronchi ogni stanco pensiero che l'umido ombra e ogni quiete appalta e dall'infima parte alla più alta in sogno porti spesso ovire spero, o ombra del morir, per cui si ferma ogni miseria l'alma al cor nemica, ultimo degli afflitti e buon rimedio. Tu rendi sana nostra carne inferma, rasciughi i pianti e posi ogni fatica e furi a chi ben vive ogni ira e tedio. Donc c'est un éloge de la nuit. Et le sonnet suivant est une autre variante que je lirai en français. Tout ce qui est enclos, tout ce qui est couvert, tout ce que va bornant l'inlassable matière, tout protège la nuit, tant que le jour domine des feux éblouissants du soleil ennemi. Car la nuit est vaincue par la flamme ou le feu, par le soleil lui-même détruite, dénaturée, par la moindre lueur privée de sa beauté, et même une luciole parvient à l'inquiéter. Ceux qui s'offrent et s'exposent au soleil, ceux qui lèvent en mille et mille germes, mille sortes de plantes, le rude laboureur le tranche de son soc. Mais c'est en l'ombre seule que l'homme va se créant. C'est pourquoi toute nuit, plus que toujours, est sainte, puisque l'homme vaut plus que tous les autres fruits. Donc c'est un éloge, comme vous le voyez, de la nuit qui nous préserve, je dirais, de la fièvre et de la fureur du soleil. Un éloge de l'ombre, comme, je ne sais pas, Max Milner aurait pu le faire.
Alors, évidemment, cours sur Pétrarque. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous avez lu Pétrarque dans ce cours, Carlo Sola?
J'avais un projet que vous êtes en train de parcourir, de prendre les grands auteurs de la littérature italienne qui ont pu avoir un rôle, jouer un rôle dans la littérature européenne. Donc, d'abord Pétrarque, puis sans suivre un ordre chronologique, bien évidemment, Michel-Ange, Leopardi, et puis j'ai consacré 3 années à la Divine Comédie.
Oui. Alors, Pétrarque, j'ai vu que vous avez fait l'enfer,
le purgatoire et le paradis.
Ça fait un an à chaque fois.
Oui, exactement.
Une année de cours.
Il me reste, mais j'ai encore un peu d'espace dans mon enseignement au collège, Boccace. On ne peut pas terminer sans évoquer Boccace. Alors, Pétrarque était et reste évidemment l'un des grands pères de la poésie lyrique européenne. Et donc, j'ai pu lire d'abord ses textes de poésie, le canzoniere, mais aussi ce qui est autour dans sa grande production latine, notamment le Secretum, c'est-à-dire ce dialogue avec Augustin, témoin silencieux la vérité, un grand texte qui continue les confessions de saint Augustin, mais aussi l'éloge de la solitude, de vita solitaria, de ozio religioso. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pétrarque a été essentiellement un auteur latin, d'où, en effet, cette tradition néo-latine que ma chère voudrait un peu prolonger. Il a écrit une quinzaine de traités en latin, et puis il y a ces Rerum Vulgarium Fragmenta, c'est son titre, son fragment en langue vulgaire, que nous appelons canzoniere, mais pour lui, son poème essentiel était le poème en latin, Africa. Nous jouissons des bribes de son savoir. Mais
c'est oui, d'autant qu'au fond, c'est un nom originel, Pétrarque.
Oui.
C'est un point qui, à la fois, absorbe tout ce qui le précède et, en même temps, irrigue tout ce qui lui succède.
Tout à fait.
C'est un point de jonction, en quelque sorte.
Vous avez parfaitement raison, je vous remercie. Il y a toute une tradition que nous devons, du reste, non pas aux Italiens, mais à Pierre de Nolhac. À Pierre de Nolhac, qui a fait de Pétrarque, à juste titre, le fondateur de la modernité. Le premier à reconnaître la grandeur, aujourd'hui trop oubliée, de Pierre de Nolhac fut le poète Giosuè Carducci, qui rédigea un commentaire magnifique au canzoniere de Pétrarque en disant « Avant de lire mon commentaire, allez voir les travaux de Pierre de Nolhac, qui restent encore aujourd'hui des témoignages essentiels pour comprendre Pétrarque. »
Est-ce que ces textes se trouvent facilement, Carlo Sola?
Oui, il y a une réimpression, un reprint récent. Mais, vous savez, le problème n'est pas essentiellement le fait de trouver ou ne pas trouver les textes. Il faut d'abord susciter la curiosité, donc je me permets de lancer un appel pour retrouver le plus possible Pierre de Nolhac.
Canzon sar dolce lobo, la donna nostra veni, credo ben che tu credi, ch'ella ti porgerà. La bella ramo, al Dio sol si lontano, or Dio sol si lontano. Non la toccar, non la toccar, ma reverente a piedi, le di ch'io sarò lato, sto ch'io possa, o spirito ignudo, o tu di carne d'ossa, le di ch'io sarò lato, sto ch'io possa, o spirito ignudo, o tu di carne d'ossa.
2005-2006, Leopardi.
Oui, oui, j'ai surtout profité de la courageuse traduction française du journal de Leopardi.
Pourquoi courageuse ?
Courageuse parce que c'est un texte dans le manuscrit de Leopardi de 4000 pages et dans la traduction française de 2000 pages. Donc c'est un ouvrage auquel le traducteur a dû consacrer à peu près sa vie. En plus, c'est un ouvrage où il y a philosophie, poésie, notes linguistiques, notes philologiques. Il faut avoir une compétence importante. Et j'ai voulu rendre hommage à cet effort très important parce que il y a le Leopardi poète, mais il y a aussi Leopardi penseur. Et donc je me suis permis de rappeler cette double tradition de la pensée de Leopardi, qui a été du reste traduit récemment par Yves Bonnefoy. Je pense que la présence de Leopardi dans la culture française est destinée à se faire jour d'une manière plus importante.
Pourquoi est-ce que vous pensez cela, Carlo Ossola? Est-ce qu'il y a une nécessité particulière? Oui, à redécouvrir Leopardi aujourd'hui.
Oui, je pense que l'un des grands dons du XXe siècle a été l'unité nécessaire de philosophie et poésie. On le voit très bien chez Paul Celan et avec les commentaires que les grands interprètes allemands, les philosophes allemands, ont fait de Celan. Et on peut donc retrouver ce chemin en reprenant la leçon de Leopardi. Je dirais qu'à partir de Hölderlin au XIXe siècle, il est difficile de ne pas penser à la liaison substantielle entre poésie et philosophie. J'entends par cela non pas le fait que la poésie doive être une espèce de philosophie en raccourci, mais que la philosophie et la poésie posent les problèmes essentiels de la présence de l'homme sur Terre, les mythes, les rêves. Et donc, il ne faut pas, d'un côté, traduire la poésie en pur lyrisme et réduire la philosophie à une formule mathématique. Et c'est pourquoi je consacre ces dernières années de mon enseignement au legs très important d'un philosophe allemand, Hans Blumenberg, qui a écrit un livre qui doit être suivi par d'autres dans le même registre, Paradigme pour une métaphorologie, et dans la préface, il dit, et je souscris entièrement à sa perspective, il dit qu'il y a des éléments de notre vie quotidienne qui ne peuvent pas être saisis par le philosophe sans faire recours à des métaphores condensées qui sont en effet l'élément substantiel. Il y a une double aporie du côté du langage et aussi du côté du concept, comme Yves Bonnefoy le dirait. Et cette aporie est, d'une certaine manière, mieux présentée par ce travail métaphorique. Et il y a une formule de Paul Celan qui est absolument essentielle, et sera mon prochain livre. Celan dit que nous vivons dans le vivier des comètes. Alors, ce que j'aimerais faire pour parfaire mon parcours d'enseignement au Collège de France est d'avoir ce vivier des comètes devant les yeux et le porter aussi aux auditeurs.
Carlos, là, vous avez fait 3 années de cours sur la Divine Comédie, donc l'enfer, le purgatoire, le paradis. Excusez-moi, je suis toujours très, très étonnée, parce que tout de même, on a l'impression que tout a été dit sur la Divine Comédie, que c'est un livre qui a suscité depuis son existence tellement de commentaires partout dans le monde. Est-ce qu'on peut encore dire des choses neuves sur la Divine Comédie ?
Vous avez complètement raison, et je vous reprendrai avec René Char. Tu ne peux plus changer, mais tu peux encore souscrire. Alors il y a des poèmes immenses de l'humanité, Homère, Virgile, la Divine Comédie, dont on peut dire tout a été dit, mais on peut encore souscrire. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est que le lecteur ou l'auditeur puisse s'intégrer au texte de la Divine Comédie qui va nous porter. Cela dit, bien sûr, que l'exigence du collège est celle qui nous demande, et je dirais même nous impose, de dire quelque chose de nouveau. Alors, je crois avoir au moins trouvé un aspect, au point de vue philologique, qui n'avait été remarqué jusqu'à présent, sauf par Boccace, justement, qui dit que Dante est nommé pas seulement une fois dans la Divine Comédie par Béatrice, qui prononce le nom de Dante, mais justement pour lui reprocher son infidélité. Mais, et alors là, Boccace a trouvé vraiment une solution formidable pour comprendre le poème, et en plus cette solution nous est témoignée par des codices très anciens. Il dit que Dante est prononcé par Adam au sommet du paradis, comme si Dante était le nouvel Adam qui va renouveler les noms par lesquels nous prononçons le monde. La question philologique que Boccace a tout de suite retrouvée, parce qu'il a copié 3 fois la Divine Comédie pour des destinataires différents, c'est que dans certains codices, au lieu de da te proferite, da te, il y a un N inscrit, et donc au lieu de dire da te, on retrouve le nom Dante. De Dante. Donc ça signifie également qu'il ne s'agit pas d'un poème où Dante retrouve simplement Béatrice, comme s'il s'agissait d'un prolongement d'un discours amoureux, mais c'est un poème fondateur, une nouvelle genèse de l'humanité, où Dante a, je dirais, l'orgueil même, mais enfin la conscience d'être une espèce de nouvel Adam face au monde qu'il va, d'une certaine manière, refaire devant Dieu.
Ce qui est sans doute, nous pouvons nous dire que c'est vrai, au fond. Au XXIe siècle, on peut dire oui, c'est vrai, Dante est un nouvel Adam. Il a refondé quelque chose, il a refondé le monde.
Moi, je le laisse dire aux grands poètes du XXe siècle qui ont été des grands interprètes de Dante, en commençant par Ezra Pound, T.S. Eliot, Osip Mandelstam, Borges, qui a écrit un long essai sur Dante, et, etc. Donc, il faut simplement les écouter.
Vous avez également donné un cours sur le baroque espagnol et le baroque européen. Voilà, je m'interroge parce que j'aimerais que vous me disiez ce que vous entendez par le mot baroque. C'est une notion que tout le monde emploie un peu à tort et à travers. Tout est baroque dès que c'est pas tout à fait droit. On sait que le mot vient des perles un peu distordues. Barocco, c'est un peu ce qui est, disons, tordu, voilà. Baroque, tordu, pour aller vite.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est le baroque pour vous ?
Ah ben écoutez, moi je citerai d'abord le baroque de Montaigne, parce que l'un des premiers qui reconstitue la vraie étymologie de baroque est Montaigne, qui dit qu'il faut en finir dans l'éducation des enfants avec les syllogismes en barocco, Bara Lipton, Barbara, etc. C'est-à-dire que cette tradition et ce nom étaient dans la tradition philosophique du Moyen-Âge donné à un type de syllogisme qui présentait des défauts. On peut dire que les perles pêchées dans l'océan Indien avaient éventuellement ce type de faux. En même temps, c'était aussi un hommage à l'un des grands prédécesseurs et maîtres de ce collège, c'est-à-dire Bataillon, Marcel Bataillon, qui avait consacré un cours au collège qui vient d'être publié en Espagne et qui sera publié en français, à Cervantes et au baroque espagnol. Texte magnifique, et comme je dois beaucoup à Marcel Bataillon à cause de son Erasme et l'Espagne, un grand monument.
Vous avez sa photo dans votre bureau, Carlos,
oui,
là.
Oui, tout à fait.
Une très, très belle photo.
Oui, je me sens...
De Marcel Bataillon parmi les livres.
Oui, je me sens un peu protégé. Et d'un côté, il y a la photo de Marcel Bataillon, et en face, en bas, la statue de Dante. Donc,
oui, en bonne place.
Oui. Et ben, il faut avoir une espèce de conscience de... d'ange gardien, et moi je conçois Marcel Bataillon comme un ange gardien.
Alors Marcel Bataillon a été, je le rappelle aux auditeurs, professeur au Collège de France.
Oui, il y a eu ce cours magnifique sur Cervantes et le baroque espagnol, et dans les premières leçons, il a tracé une histoire de ce terme. Il a rappelé toutes les traditions qui arrivent à forger ce terme venant de la philosophie, des traditions des marchands de perles au XVIe siècle. Mais je dirais que la tradition philosophique est plus universelle, parce qu'on trouve ce terme aussi bien en Espagne qu'en France, chez Montaigne, qu'en Italie. On avait tous le souvenir qu'il fallait d'une certaine manière en finir avec le syllogisme, à savoir la scolastique. Mais on ne sait jamais l'histoire des mots. Et ce terme ressurgit au XXe siècle.
Ah oui. Ressurgit massivement. Tout est baroque pour le XXe siècle.
Tout est baroque. Eugenio d'Ors. Enfin, il y a une telle tradition du baroque que Alejo Carpenter. Enfin, on pourrait faire des longues pauses dans ces beaux jardins du baroque du XXe siècle.
Cela, vous préparez quoi en ce moment? Des livres vont sortir, je suppose. Lesquels?
Alors, je prépare, comme tous les professeurs du Collège de France, le cours de l'année prochaine. Il faut le préparer avec beaucoup de soin. J'imagine que l'année prochaine, je vais terminer cette espèce de triptyque sur les paradigmes d'une métaphorologie. Donc, il y a eu le végétal, le modèle de l'homme. Cette année, mot de glace et de neige, donc l'aspect herméneutique à partir de Rabelais. Et vraisemblablement...
Les mots gelés de Rabelais.
Voilà, et exactement. Et l'année prochaine, vraisemblablement, parce que jusqu'à la dernière minute, j'ai toujours de repentir, ce serait vraisemblablement repère d'invisible. À savoir le fait que nous avons chaque jour recours à quelque chose que nous ne voyons pas, mais que nous considérons comme plus réel du réel. Même dans la conversation ordinaire, on dit « Cher ami, tu vois l'autre jour ». Alors, en réalité, ce « tu vois » ne se réfère à
rien.
On ne voit rien du tout. Mais c'est une espèce d'appel à une sorte de conscience commune, non dite, qu'il y a entre les deux interlocuteurs. Et si nous n'avions pas cette espèce de conscience d'invisible qui nous lie, nous devrions expliquer et parler le jour et la nuit, ne fût-ce que pour faire un seul acte. Donc nous agissons non pas à travers ce que nous disons, mais grâce à l'implicite qui reste entre nous. Cette année, c'était au fond l'explication du fait qu'on dit les mots pèsent, et c'est vrai, les mots pèsent. On dit même les gros mots. On a une conscience physique des mots. Ce n'est pas de la pure voix ou abstraction. Et donc l'année prochaine, ce serait plutôt justement l'implicite et l'invisible qui nous conduit et qui nous permet aussi de pouvoir parler, parce que autrement on serait dans une espèce de monologue infini.
Et quels sont les textes qui vont guider votre réflexion, Carlo Ossola?
L'un des textes centraux sera très certainement « Les villes invisibles » d'Italo Calvino. J'étais venu au Collège de France en espérant que l'Europe devienne une réalité dans laquelle on pouvait dépasser l'esprit des nations.
Collège, elle l'est.
Au collège, elle l'est. Simplement, elle n'est pas dans la réalité quotidienne. Et je dirais même qu'il y a eu un affaiblissement de cette conscience européenne. Mais je suis plutôt optimiste parce que l'Europe est un lieu de brassage. Le brassage nous est imposé aujourd'hui par les conditions de migration constante. On ne pourra pas s'opposer, comme un ministre l'a dit d'une manière tout à fait juste, on ne peut pas mettre des barrières dans la mer. L'Europe a partout la mer et l'océan. Et donc j'ai bonne confiance que ce brassage continue. Cela dit, je suis bien sûr très lié à mon pays, mais quand on regarde la réalité qui a forgé ce pays, n'est pas une réalité seulement italienne. On est très bien, on est italien en Provence, on est italienne en Afrique du Nord, c'est-à-dire que la civilisation faite par l'esprit de Rome était une civilisation où il y avait une place centrale, le forum, et ce forum comportait la conversation, la justice et le temps libre, pour ainsi dire, l'otium. Donc partout où il y a des places, où éventuellement, comme au sud de la France, on joue aux boules, eh bien voilà, moi je trouve l'esprit de Rome, l'esprit qui nous réunit, c'est-à-dire la nécessité constante d'unir dans un grand équilibre ou dans l'équilibre possible le négocium, c'est-à-dire les affaires, l'activité, et l'otium, c'est-à-dire le silence, la contemplation, le gratuit. Si on n'a pas le temps d'otium, on n'aura plus de gratuit, tout sera...
Vous avez écrit un grand livre sur la gratuité.
Oui, en pure perte.
Thank you.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Carlo Ossola, titulaire de la chaire des littératures modernes de l'Europe néo-latine. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Demain, nous entendrons l'entretien que nous a accordé le professeur Hugues de T, titulaire de la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.